Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On va revenir sur 3 sujets aujourd'hui. Antoine, tu as été stagiaire chez Apple. Tu vas pouvoir nous raconter ce qui se passe derrière ce culte du secret poussé à son paroxysme. On va également parler de Google et de ses tentatives un peu hasardeuses de remplacer les cookies tiers pour faire de la publicité ciblée. Mais avant ça, on va se poser une autre question. Facebook peut-il disparaître ? Jingle. Avant de se lancer, pourquoi se poser cette question ? Comme tu l'as dit, ça peut avoir un côté un peu trollesque, mais là, le contexte quand même est assez intéressant et inhabituel quand même. C'était au début de la semaine, donc Meta, qui est le groupe de Facebook, s'est effondré de 26% en bourse suite à l'annonce de ses résultats. Donc sur le dernier trimestre de 2021. Mm-hmm. Pour la première fois, Facebook a perdu des utilisateurs, 1 million. Meta a aussi annoncé des résultats qui sont plus faibles que ce qu'ils prévoyaient. Savoir que les résultats plus faibles que d'habitude, pour eux, c'est 39 milliards de bénéfices. Voilà. Et surtout, le Reality Labs, qui est donc l'entreprise de Meta, qui s'occupe de toute la partie métaverse, etc., a perdu 10 milliards en 2021, ce qui, pour certains investisseurs, n'est pas hyper encourageant sur la trajectoire qu'ils espèrent, évidemment. Une des explications qu'ils ont fournies et qui est supposée, c'est une simple mise à jour d'iOS qui a introduit un nouveau système qui permet de demander aux utilisateurs leur consentement avant de les traquer, tout simplement. Et donc c'est une des raisons supposées de cette perte. Le problème, c'est que le business de modèle de Facebook, qui est de vendre de la pub ciblée, mm-hmm. dépend énormément de ce système de tracking. Bien sûr. Il y a une estimation qui a été faite sur la perte possible pour Meta sur 2022, donc sur l'année en cours, c'est 10 milliards qui serait estimé en perte. Enfin, dans le même temps, Meta, donc Facebook, Instagram, etc., a menacé de fermer ses services en Europe. Le problème, c'est que l'Europe ne veut plus donc annuler le Privacy Shield, qui était le système qui faisait que vous pouvez porter des données européennes vers les États-Unis, etc. Ils ont invalidé ce truc-là. Maintenant, il y a des discussions pour remettre quelque chose de similaire en place. Enfin, on va pas rentrer dans le détail de la
juridiction.
Exactement. Mais en gros, Facebook, pas très content, explique que, si on trouve pas une solution, ils vont plus pouvoir fournir de services puisque leur moyen de gagner de l'argent, c'est littéralement la peur d'utiliser les données d'utilisateurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. D'où ma question, selon vous, est-ce que c'est possible vraiment que Facebook disparaisse d'Europe.
Et écoute, pour remettre un peu de contexte, que j'ai suivi un petit peu cette histoire-là, concrètement, donc Facebook n'a pas dit qu'ils allaient partir de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, comme toutes les grosses boîtes, ils ont des rapports financiers, et dans ces rapports financiers, ils sont obligés de tenir au courant les investisseurs des risques. Et dans les risques, il y a un risque actuellement de compliance avec le régulateur européen sur cette question effectivement des données. Donc voilà, c'était une bête phrase en fin de rapport, et c'est devenu un bordel. Ils ont refait un communiqué depuis pour dire... Les gars, on n'a pas menacé qui que ce soit. On a juste dit, comme 70 autres grandes entreprises qui ont aussi communiqué dans ce sens-là, attention, il y a un risque qu'on n'ait plus de continuité de service en Europe à cause de cette décision du régulateur.
Antoine, tu dirais que sur la possibilité d'une disparition ou alors au moins d'un déclin qui se poursuivrait de Facebook sur les prochaines années, toi, t'es comment ? Tu pronostiques quoi ?
Comme l'a dit Hardix, moi je pense pas que ce soit possible en fait que Facebook sorte du marché de l'Europe. On représente à peu près 15% de leurs utilisateurs, donc franchement 300 millions d'utilisateurs comme ça qui partiraient, c'est trop dur pour eux. Ils auraient peut-être d'autres moyens de les financer. En revanche, un déclin des applications actuelles de Facebook, peut-être. C'est pour ça aussi que Facebook travaille sur d'autres innovations. Ils sont à fond sur les cryptos, le métaverse, le Web 3, etc. Donc on verra ce que ça donne là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir innover pour profiter de leur marché actuel et
de leur
masse d'utilisateurs autrement. Et c'est vrai qu'Apple, du fait qu'ils n'ont pas un business centré sur la donnée d'utilisateur, Apple, ils vendent du software, ils vendent des services, du hardware. La data d'utilisateur, ils n'en ont rien à faire, même s'il y a eu quand même quelques petits scandales avec Siri. Il y en a un autre qui est ressorti aujourd'hui avec Siri, ça pourrait être intéressant d'en parler aussi. Apple n'a pas besoin de business de la data, donc eux, pour eux, ils bloquent tout et ils sont très fiers en fait de travailler sans données. Ça c'est important.
Est-ce que vous trouvez ça normal justement que Apple ait autant de pouvoir quoi, que en sa possession, ils aient un pouvoir de nuisance qui, où ils peuvent appuyer sur un bouton et dire toi, c'est moins de 10 milliards maintenant. C'est fou.
Bon, moi ça me dérange pas parce que c'est une position de marché naturelle en fait hein. Fondamentalement, on va dire les gens achètent ce produit Apple volontairement, choisissent, on rappelle que c'est pas Apple qui choisit quoi que ce soit. Ils ont mis l'option d'avoir un pop-up pour savoir si tu veux être traqué ou non. Donc les gens choisissent d'acheter, choisissent d'utiliser cette fonction ou non, choisissent de machin, donc à partir de là, stop ou moins.
C'est vrai que non mais c'est dur.
Je sais pas mais enfin si tu te mets à la place de Facebook, enfin, demain, il y a une nouvelle fonctionnalité. Mais en plus, vous êtes un peu, vous, avec YouTube, c'est ça, vous êtes concerné. YouTube fait une nouvelle fonctionnalité et d'un coup, tes stats s'effondrent et ton chiffre d'affaires, il est divisé par deux. Fait chier, quoi.
Après, c'est comment tu le prends? Il y a plein de gens qui auront plein de réponses différentes. Ça n'a pas de sens. Je pense pas qu'il y ait de vérité universelle, tu vois.
Non, bien sûr.
Personnellement, demain, je perds ma chaîne YouTube, ça ne change rien.
Bon, un peu.
Si, ça me fait chier.
Oui.
Ça m'emmerde. J'ai l'ego dans les chaussettes. Ça me demande de me reconfigurer un peu pendant un mois. C'est tout.
YouTube, ils t'entendent là.
Non mais voilà, je pense que ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi de pas compter sur les autres et sur les services de lesquels on dépend, parce que c'est vrai qu'on a une dépendance, et de se dire comment je me configure moi et mon business quand c'est un business pour être sûr de dépendre le moins possible, en tout cas de spreader la dépendance. Pour que tu puisses perdre un bras sans perdre l'autre, tu vois. Enfin,
Mais c'est assez fou que à cette époque-là, quand ça vaut des milliards et tout, eh ben Apple a quand même la possibilité avec une mise à jour de faire un cut de 10 milliards dans.
On est tous en train de découvrir que Apple vend beaucoup de smartphones.
Enfin, mais là, oui, c'est mais. Un peu ça. Non, mais bien sûr, mais.
Avec, ils vendent quand même beaucoup de téléphones.
Et encore, ils sont en train de transitionner de ce modèle-là pour se déplacer vers un modèle de service.
Ouais.
Dans un futur, on aura des iPhones pendant peut-être 5 ans.
Mais pour moi, c'est pas vendre des téléphones. C'est le pouvoir qu'ils ont. Via ce truc, via une mise à jour, ils contrôlent tout sur ce téléphone de A à Z. Par exemple, Google, là, un petit peu moins. Par exemple, parce que beaucoup de gens utilisent Chrome sur les téléphones Android, mais tu peux utiliser d'autres navigateurs. Donc même s'il y a un truc, il lock une fonctionnalité dans Chrome, tu peux quand même télécharger Brave ou Firefox et tu vas pas être obligé d'avoir les cookies de Google, par exemple.
Ces fameux cookies tiers qui permettent donc de faire du ciblage, donc de suivre le comportement des gens avec, par exemple, le pixel de Facebook ou Google Analytics, donc qui sont des petits scripts que les sites web mettent sur leur page qui permettent de créer un profil de plus en plus complet qui fait qu'à la fin, ils vous connaissent mieux que vous-même, clairement. Et donc, ce truc-là, donc les cookies tiers ont été désactivés sur Safari, Brave, Firefox, je crois qu'au moins mitigé, et qui font que cette forme de retargeting est de plus en plus compliquée. Alors, pour éviter ce problème, ils ont essayé de mettre en place leur propre système intégré directement dans le navigateur. Donc, ils ont commencé avec une première tentative qui s'appelait donc les FLOC. C'est Federated Learning of Cohorts. Donc, le principe, c'était de créer des groupes d'utilisateurs qui ont à peu près les mêmes goûts. Sauf que, bon, ils se sont fait vraiment flinguer par la critique, que ce soit côté grosse boîte de pub,
côté utilisateur, côté navigateur.
Mais ils ont fait une nouvelle tentative. Ils ont littéralement dit « Le nouveau projet intègre ce que nous avons appris des tests sur Flock ainsi que les retours de l'industrie. » Donc, clairement, c'est un moyen de dire que c'est un échec. et donc, le nouveau projet s'appelle Topics. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On ne sait pas encore techniquement exactement comment ça pourrait marcher.
Déjà, quand un GAFA dit que c'est une proposition pour améliorer ta vie privée, en général, ce ne sont pas bons.
Je suis un peu d'accord avec toi.
C'est clair. Et en même temps, ils réagissent au backlash. Donc, ils sont pas totalement imperméables à la vie.
Mais leur business est tellement basé là-dessus à Google aussi. C'est ça qui est fou. C'est que ce projet-là, pour eux, mais le moindre changement, ça a des impacts financiers monumentaux.
Du coup, on sait pas encore exactement comment ça marcherait. Il y a des tests qui sont prévus prochainement. Officiellement, le but, c'est de faire un système un peu moins intrusif que leur première proposition. Évidemment moins intrusif que la façon dont les trucs de retargeting fonctionnent. J'ai un peu regardé dans le détail le projet.
Ouais.
Honnêtement, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que évidemment que les autres navigateurs type à la Brave, les Firefox, les Safari, etc. sont sans commune mesure plus privés, plus respectueux de la vie privée en tant qu'utilisateur. Voilà. Donc ça, le conseil, il va jamais changer. Utilisez ce genre de navigateur. Il y a aucun doute. Mais Chrome va passer potentiellement de éclater au sol à un tout petit peu moins pire, tu vois.
Moi, ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Google, justement, si on les compare un peu à Facebook, c'est que, par exemple, Google, ils sont méga malins. Il y a 10 ans, d'avoir lancé leur propre navigateur alors que personne ne les attendait, ouais, à faire Chrome, et plus tard d'avoir fait d'avoir misé sur Android et tout, parce que c'est grâce à des logiciels comme ça qu'ils vont pouvoir potentiellement imposer un outil que Facebook n'a pas. Ça, Facebook, ils sont complètement dépendants des gens qui font les navigateurs, ouais, des gens qui font les OS mobiles, et en fait c'est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que je me suis dit juste après, c'est peut-être pour ça que Facebook se dit on va tout miser sur le métaverse, parce qu'ils veulent peut-être leur endroit. Claire. Où ils seront enfin propriétaires,
du hardware.
Ils pourront faire la pub qu'ils veulent.
Et tu sais qu'ils l'avaient déjà, ils l'ont perdu avant. Je sais pas si tout le monde se souvient d'ici, mais fut une époque, la grande époque de Macromedia Flash Player, où Facebook avait son App Store. C'est là où Farmville est né.
Ah, mais oui!
Il y avait un App Store! Il s'était contrôlé.
Il y avait des jeux surtout, non?
Il y avait plein de jeux sur Facebook.
Des quiz qui servaient à remplir des bases de données sombres de Cambridge Analytica. Il y avait tout un tas de trucs intéressants.
Oui, j'avais oublié ce nom.
Et Farmville. Farmville, mon pote.
Ah ouais.
C'est passé à trappe.
Mais ouais, j'avais pas pensé à cette vision du métaverse comme zone de publicité où on est tranquille.
Ouais, où ils peuvent un peu tout contrôler, quoi. Après, est-ce que ça va marcher? Bon, ça, c'est encore un autre débat. Ouais.
Et un des moments où on a discuté un petit peu, c'était sur la vidéo où on parlait du système sur les claviers iOS et tous les claviers d'ailleurs, de prédiction des messages, etc., pour faire de la suggestion, pour faire un correcteur orthographique, etc. Et tu me disais, moi, j'étais chez Apple, et justement, ce que moi, je mentionnais vite fait dans la vidéo, que eux, ils collectent moins de données, et du coup, c'est plus galère d'un point de vue technique et tout. Moi, j'ai dit dans ma vidéo, tu parles, c'est une excuse. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, tu me disais.
Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, chez Apple, il y a une vraie fierté des ingénieurs à travailler sans données. C'est un vrai challenge. Il y a plein d'ingénieurs, ils sont là. Mais nous, c'est trop cool. On fait du machine learning, du NLP, de l'IA, etc. Mais on n'a pas de données. Donc, il y a tout un processus qui consiste à obtenir des données, mais qui sont pas des données des utilisateurs finaux. Donc, moi, j'ai une anecdote un petit peu intéressante. Je pense assez sympa. Quand vous recevez, par exemple, un billet de train, vous commandez un billet de train sur ça s'appelle SNCF Connect maintenant. Ouais. A priori, ce billet de train, il s'ajoute automatiquement à votre calendrier. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée par en France. Elle est développée à Paris, celle-là, tu vois.
Je sais pas qu'il y a des ingés à Paris.
Si, ouais, il y a des ingés Place d'Iéna à Paris.
Voilà.
Je crois que ça, tu me dis si je me trompe, mais ça vient pas de Steve Jobs qui avait lancé une petite équipe à Paris pour l'iPhone ou je sais plus pour quel produit. Ouais, et ils ont gardé les locaux et du coup maintenant il y a des gens à Paris.
Effectivement, Apple France a toujours été un peu important. Bon, il y a eu des gens importants, Pascal Cagny, etc. qui ont été importants. Mais effectivement, au début, l'aspect, c'était du business, quoi. C'est que du commerce, marketing, etc. Et ce qu'il a fallu faire à un moment, c'était, par exemple, tester les prochains iPhone pour savoir s'ils fonctionnent bien avec Bouygues, Orange, etc. Il y avait besoin, en fait, d'être sur place. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'Apple a voulu recruter des talents là où ils étaient et pas forcément avoir besoin de les déplacer à Cupertino. Tout le monde n'a pas envie d'aller là-bas. Peut-être que dans le chat, les gens rêvent tous d'aller là-bas. Mais en fait, c'est pas non plus si incroyable que ça. C'est très cool, hein, c'est une expérience à vie, mais en France, il y a plein de belles choses aussi.
Ouais, la cantine n'est pas ouf, apparemment. Voilà.
la cantine chez Apple est ouf. Cupertino, c'était incroyable.
Petit point cantoche.
Ouais, je viens, premier doc, zéro blague, je viens en savoir plus sur la cantine d'Apple.
Moi, et pour l'anecdote, je suis vraiment allé qu'un seul jour sur le campus d'Apple à Cupertino, ok. Et en fait, ce campus, il a été conçu et pensé selon les désirs de Steve Jobs, qui a jamais pu y aller parce qu'il est décédé avant, malheureusement. Et Steve Jobs était fan de sushi, ok. Et il voulait qu'il y ait un maître sushi qui soit là pour faire des sushis sur place. Et donc, quand j'y suis allé, ce que j'ai voulu prendre, c'était absolument les sushis de Steve Jobs. Tu vois, donc j'ai encore le ticket de caisse. Hein. Je suis vraiment un passionné parce que
il y a un chef sushi sur place, incroyable. Voilà.
Et après, il y a d'autres comptoirs, hein, il y a pas que des sushis. Hein,
vous voyez, il y avait une vraie anecdote.
Voilà. Ouais, bah oui. non, mais c'est clair.
Et voilà.
Parce que là, on fait des parenthèses. L'anecdote de base, c'est que cette fonctionnalité, pour remettre en contexte, lorsque vous commandez un billet de train, par exemple, sur SNCF Connect, vous recevez un mail, ça s'ajoute automatiquement à votre calendrier. Et il s'avère que ce que fait Apple, c'est qu'il paye disons, ils outsourcent ça, ils payent des gens pour commander plein de billets de train, un peu à des endroits random, des billets d'avion, etc. à travers le monde. Et comme ça, ils ont des données, c'est des vraies données comme si c'était des vrais users, mais en fait, je crois qu'ils, globalement, ils prennent l'assurance, pour ensuite annuler tous les billets derrière. Mais au moins, ils ont les données, des vrais mails qu'ils ont reçus et ils s'entraînent comme ça.
Donc c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser leur vraie base d'utilisateurs et leur vrai comportement et regarder ce qu'ils font, ils payent
des cohortes d'utilisateurs
ouais.
pour
enfin des faire cohortes comme si... ouais de ouais c'est même pas des cohortes d'utilisateurs, c'est vraiment des boîtes où ils ont des employés qui font que ça et commandent des billets
pour nourrir les algorithmes de machine learning
voilà. C'est quoi ton travail? Je commande des billets de train pour nourrir les algos d'une autre boîte, c'est ça. Livrant une autre boîte après.
Ouais, c'est un peu ça. Non mais c'est ça. c'est assez ouf. Mais cependant, pour me rétorquer, et ça c'est vrai, il y a eu plusieurs scandales avec Siri. D'ailleurs, j'étais pile en stage à ce moment-là avec Siri.
Ouais.
Et effectivement, il y a eu un scandale des écoutes de Siri, donc c'est en 2019, et il y en a un nouveau qui est sorti, je crois ce matin, où vraiment ce qui s'est passé, c'est que Apple écoutait les conversations enregistrait les conversations Siri, les anonymisait et on entendait des gens parler, ils regardaient que le texte que Siri avait bien écrit était le bon.
Okay.
Et il y a des gens qui servaient de ça pour essayer d'améliorer Siri. Donc ça a fait un scandale à un moment parce que ça s'est su du jour au lendemain. Moi j'arrivais dans le bureau, ils étaient vides, c'est-à-dire qu'ils avaient dit aux toutes les personnes qui faisaient cette activité de plus le faire. Dans une mise à jour d'iOS, ils ont proposé au moment vous avez un modèle de configuration au début d'iOS, ils disent est-ce que vous voulez améliorer Siri, oui ou non. Si tu dis non, normalement tes données sont pas envoyées. Ouais. Et il s'avère, le scandale vient d'éclater, j'ai pas encore eu trop le temps de lire les articles, que ce matin il y a des chercheurs en sécurité qui ont trouvé qu'avec iOS 15
Même si tu décoches.
Et bien depuis iOS 15, même si tu décoches, ça envoie quand même les données à ton insu.
Les bâtards.
Ouais. Et alors, moi, je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Je peux pas vérifier. Mais en tout cas, je viens de voir les articles passer, à voir comment ça évolue.
C'est chaud.
Et Apple vient dans la dernière bêta d'iOS 14 de remettre le modal pour que tu recliques dessus pour corriger le bug.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.